Le journal de 18h, Sonia Nzian.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Contrairement à ce qu'avancent certains Ivoiriens, Ibrahim Koulibaly Cuibière trouve suffisant le délai pour la révision de la liste électorale. Eh bien, en début d'édition, vous entendrez le président de la commission électorale indépendante. Désormais en Côte d'Ivoire, les populations devront adopter des comportements éco-citoyens sous peine de sanction. C'est ce qu'impose le code de l'hygiène et de la salubrité qui bientôt entrera en vigueur. Les détails dans quelques instants avec le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Hors de nos frontières en Guinée, Moussa Dadis Camara, ce mercredi, est condamné à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité. Et puis de retour en Côte d'Ivoire, actualité oblige, Jean-Mélène Bitti proposera un dossier pour faire l'état des lieux du dégarpissement des populations à Adjamé Village, ceci en rapport avec la construction du quatrième pont à Abidjan. La campagne de sensibilisation du président de la commission électorale indépendante sur l'élection en Côte d'Ivoire a pris fin le mardi 30 juillet dernier par l'étape de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Lors de la conférence, Ibrahim Koulibaly Cuibière a répondu aux Ivoiriens qui estiment que le délai pour la révision de la liste électorale est trop court. Ibrahim Koulibaly Cuibière.
Au dernier recensement, on a identifié 22 millions d'Ivoiriens. Il y a 12 millions 500 qui sont en âge de voter. Et dans les 12 millions 500, il y a 8 millions et quelques qui sont sur la liste électorale. Il y a donc 4 millions 500 qui ne sont pas sur la liste électorale, qui font l'objet de convoitises de la part de la commission électorale, tout comme des partis politiques. Alors, on nous dit que le temps ne suffit pas. Mais nos services ont fait une étude. La moyenne d'inscription dans un bureau de vote sur les 28 jours, c'est 11 personnes par bureau de vote par jour. En moyenne, on couvre les 4 500 000. Or, c'est avec nous qu'on a réussi en 2020 à enrôler comme nouveaux électeurs 900 000 personnes. Sinon, avant, c'était une affaire de 250 000, 300 000. Bon, alors, si nous, on vous donne un mois pour capter ces 4 500 000, c'est 11 personnes par bureau de vote. Mais commençons déjà. Si par la suite, il est établi effectivement qu'il y a un résiduel à aller chercher, mais on va le chercher. Quand on ouvre les lieux d'enrôlement, 12 000 environ, mais dans chaque lieu de vote, il y a au minimum 3 personnes. Et multiplier les 3 personnes par le nombre de lieux de vote, vous imaginez, c'est beaucoup d'argent. Mais toute l'année, on aura immobilisé ces personnes.
Mais pourquoi pas ?
Une dizaine de personnes. Voilà pourquoi nous axons notre politique sur la sensibilisation. Sensibiliser le citoyen à venir s'inscrire sur la liste électorale.
Ibrahim Koulibaly Cuibière, président de la CEI. Toujours dans le fil de l'actualité, la ministre sénégalaise en charge de l'intégration africaine et des affaires étrangères séjourne en Côte d'Ivoire. Ceci dans le cadre de la 10e session de la grande commission mixte de coopération Côte d'Ivoire-Sénégal. Elle a été reçue au palais présidentiel au plateau par le président de la République Alassane Ouattara. Yacine Fall est revenu sur le contenu des échanges au terme de l'audience.
Nous sommes venus rencontrer son Excellence le Président Alassane Ouattara en commençant cette rencontre au cours de laquelle se tient la commission mixte entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Nous sommes donc venus payer nos respects au Président, aussi écouter ses conseils, son soutien, l'organisation de cette commission mixte qui relance en fait la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. La commission mixte ne s'est pas tenue depuis 10 ans. Et aujourd'hui, nous sommes venus avec tous les experts des ministères techniques sénégalais rencontrer les ministères techniques de la Côte d'Ivoire pour discuter de comment renforcer les liens de coopération économique entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Donc la commission mixte est en train de se réunir et nous allons terminer certainement avec aussi une signature de l'accord qui va sceller le lien entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal autour de cet accord de coopération économique et de solidarité entre les deux pays.
Yacine Fall, ministre sénégalaise en charge de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Rendons-nous à Yamoussoukro pour un atelier organisé par la direction des ressources humaines du ministère des Finances et du Budget. Le but étant de faire valider ces projets de charte d'éthique et de code de déontologie révisés lors d'un séminaire d'orientation stratégique tenu en mars dernier à Grand Bassam. Émile Yao nous en parle.
Bamba Cheikh Lassina, directeur des ressources humaines du ministère des Finances et du Budget, représentant son ministre de tutelle à l'occasion, à l'entame des travaux, situé les enjeux de cet atelier.
Aujourd'hui, plus qu'hier, les questions d'éthique et de respect de la déontologie à tous les postes deviennent une exigence absolue. Les enjeux sont donc énormes, car ils visent la promotion de l'éthique et la déontologie au sein du ministère, afin de construire une administration forte et moderne pour une gestion efficace des finances publiques.
Les assises de Yamoussoukro ont donc pour but d'actualiser le code de déontologie, la charte d'éthique et les documents annexes, des guides référentiels à même de permettre de relever ce défi, indique Bamba Cheikh Lassina.
La finalité de cet exercice est de produire des documents qui permettront de renforcer notre capacité à servir l'intérêt public de manière juste.
L'exercice pour la haute autorité de la bonne gouvernance est donc d'importance, relève Jacques Achiyao, son représentant.
Pour la haute autorité, la bonne gouvernance, c'est un exercice important. Les dispositions de l'ordonnance 23660 sont assez claires là-dessus. L'article 12 demande à tous les membres de l'État de se munir de codes de conduite pour permettre à leurs agents d'exercer leurs activités dans un cadre purement intègre, pénétré d'éthique et de probité. Et c'est la raison pour laquelle le président de la haute autorité y attache une importance particulière.
Les travaux qui s'étend sur 3 jours s'achève donc ce mercredi 31 juillet 2024. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Du 1er au 6 août prochain se tiendra la Semaine nationale de la propreté. Cette année, l'événement tournera autour du thème « Gouvernement, forces de défense et de sécurité et population, tous engagés pour le respect du code de l'hygiène et de la salubrité ». Objectif principal de cette 8e édition, sensibiliser les populations sur le code de l'hygiène et de la salubrité. On en sait plus avec Diomandé Drissa, il est le directeur de cabinet du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la salubrité.
Ce thème vise à promouvoir l'engagement citoyen des forces de défense et de sécurité et d'autre part à vulgariser sur l'ensemble du territoire national la loi portant code de l'hygiène et de la salubrité. Ça fait près d'un an qu'on est en phase de communication pour informer nos populations qu'il y a une loi ivoirienne qui va commencer à rentrer en vigueur pour demander aux Ivoiriens d'avoir un comportement éco-citoyen. Pour dire aux populations, voilà un code, on vous explique, mais celui qui va aller à l'encontre de ce code verra en face de lui la force de la loi à travers les forces de défense et de sécurité ivoiriennes. Avec l'instrument juridique qui nous accompagne aujourd'hui, qui est le code de l'hygiène et de la salubrité, nous allons avec les forces de sécurité qui seront partout. Nous aider à montrer, donner l'exemple d'abord aux Ivoiriens, que même au plus haut niveau, les gens sont impliqués dans la propriété de notre cadre de vie. La Semaine nationale de la propriété, c'est du 1er au 6 août de chaque année.
Quelques jours avant les indépendances, pourquoi principalement cette date?
Le signe, c'est de dire fêtons dans la propriété et la cérémonie officielle aura lieu à Daloa. Dans tous les campements, dans tous les villages, chaque Ivoirien, les ONG, les associations des quartiers doivent s'organiser pour mener cette activité-là dans notre cadre de vie.
Diomandé Drissa, le directeur de cabinet du ministre de l'Hydraulique et de la Salubrité, joint par Christelle Yesso. Direction d'Ivo pour prendre part à la cérémonie commémorative de la Journée nationale de l'arbre dans le Lodibois. Pour l'occasion, des centaines d'arbres ont été symboliquement plantés dans la cour de la préfecture de région à Divo et le long des artères menant à la sortie de la ville. Des détails avec vous, Abel César Cassin.
Autorité administrative, politique et coutumière marqué cette journée par la mise en terre de jeunes plants portant leurs noms respectifs. Le directeur régional des eaux et forêts, dont la structure a fourni la matière, le lieutenant-colonel Banga Anvo Jules Anissé en détermine le sens.
Nous avons demandé à chacun de planter un arbre, puisque dans le cadre de nos activités, on a un certain nombre de projets qui vont nous permettre d'accentuer les activités de restauration du couvert forestier au niveau de la région.
Le représentant du directeur pays de CIFOR ICRAF, le Centre de recherche forestière internationale et le Centre international de recherche en agroforesterie, chargé de la mise en œuvre de ce projet, plaide pour son appropriation par la collectivité Kwaku Tomadakin.
On a planté, on a mis des cages par exemple. Si vous voyez quelqu'un enlever ses cages ou en est détruit, même si vous n'êtes pas là déjà, vous devez vous sentir interpellé. Si on a des arbres le long des voies, on a des arbres dans la ville, on contribue déjà à l'atténuation des effets du changement climatique.
Le représentant de l'organe international porteur de ce projet, Adelph Doua, fait un éclairage.
Le projet d'adaptation climatique basé basé sur la nature dans les forêts guinéennes d'Afrique de l'Ouest, est une collaboration entre l'entraide universitaire mondiale du Canada et le Centre d'études et de coopération internationale de ceux-ci. C'est un projet de 3 ans qui a commencé depuis avril 2023, financé par Affaires mondiales Canada.
À terme, c'est un millier de plants qui seront mis en terre dans le Lodjibois. De Divo, Abel César Cassin, Radio de la Paix.
Parlons à présent de développement local dans le Tonkwi. Les populations plaident auprès des autorités pour entre autres l'aménagement de routes villageoises et la construction d'infrastructures telles que des écoles de proximité. C'était récemment au cours d'une rencontre dans nos faits ici l'écho. Stéphane Adams, notre correspondant de région.
Les différentes couches sociales à la salle de réunion du Conseil régional du Tonkwi ont échangé sur les questions du développement local. Une séquence de cette rencontre entre les membres du Conseil régional du Tonkwi et les invités à l'occasion.
Moi, c'est la ville chef de Kafour. Il y a une adage qui dit la route amène le développement. Je n'ai pas entendu parler, je pense, que dans la planification, le projet de rétrofilage des routes qui mènent dans les villages très importants. Dans la région de Mont.
Au Pays Modeste, sous-préfet de Bonny, pour l'année 2025, il y a la construction d'un bâtiment de 3 classes plus bureau à Guélémou. On va à l'année 2026. Nous avons également la construction d'un bâtiment de 3 classes plus bureau à l'EPP Guélémou. En fait, ces deux projets qui se répètent. Je voudrais si on ne pouvait pas remplacer ce projet-là par un autre projet au niveau de Guélémou.
Le premier vice-président du Conseil régional du Tonkwi, Oyimela Gaston Aimé, donne les raisons de certaines des priorités selon le conseil régional du Tonkwi.
Je voudrais vous indiquer que Albert Pacquès Mabiri, président du conseil régional du Tonkwi, a mis l'accent sur la construction des collèges de proximité. Les collèges ouverts, nous avons une 30aine. Et les collèges qui doivent ouvrir bientôt, nous sommes à la 40aine de collèges. Tout cela pour permettre à nos enfants de rester proches de leurs parents pendant qu'ils sont encore très jeunes et pour éviter que les lycées des villes soient engorgés.
D'autres rencontres sont prévues bientôt, a-t-il indiqué Stéphane Adams, Main Radio de la Paix.
Hors de nos frontières en Guinée pour sa responsabilité dans le massacre du 28 septembre 2009, Moussa Dadis Camara a été condamné ce mercredi à 20 ans d'emprisonnement pour crime contre l'humanité, apprend l'AFP. 7 autres accusés ont aussi été condamnés à des peines s'élevant jusqu'à la prison à perpétuité. Ceci à l'issue d'un procès historique qui a duré près de 2 années. Les accusés et les parties civiles ont le droit de faire appel dans un délai de 15 jours. Quant au parquet, il a 2 mois pour le faire. Sport, Jeux Olympiques à Paris 2024. La journée du mardi 30 juillet a vu la France un peu moins en réussite. Avec le bronze remporté par la judokate Clarisse Agbayenou, la gymnastique américaine, elle, est au sommet. Au classement des médailles, c'est le Japon qui est en tête avec 13 dans sa besace. Didier Blé nous en dit plus.
L'américaine Simone Biles conquiert sa première médaille d'or à Paris. 3 ans après les Jeux de Tokyo, elle avait été victime de défaillances psychologiques. Simone Biles renoue donc avec les plus hauts sommets du sport au JO 2024. En judo, Clarisse Agbayenou, la championne olympique en titre, chez les moins de 63 kilos, est tombée en demi-finale. Elle sauve ses Jeux en se contentant du bronze. Au tennis, désillusion pour Coco Gauff qui s'effondre dès les 8e de finale. Le porte-drapeau américain a été battu par la Croate Donna Vekic. Et la nageuse sud-africaine Tatiana Smith, elle, s'est parée d'or sur 100 mètres brasse. Toujours en natation aux 4 fois 200 mètres nage libre, la première place est revenue aux Britanniques, tandis que l'équipe tricolore arrive en 5e position. Et puis, démonstration de Léon Marchand en demi-finale du 200 mètres brasse. Le champion français essaiera ce mercredi d'enlever déjà sa 2e médaille d'or. Au football, l'Argentine a battu l'Ukraine 2-0. La France a défait la Nouvelle-Zélande 3-0 également. Toutes les deux équipes se qualifient pour les 8e de finale. Ce mercredi, à la mi-journée, la délégation tricolore compte 18 médailles, dont 5 en or. Elle est en 4e position. Elle est devancée par le Japon, 13 médailles, 7 en or. La Chine, 14. L'Australie, 11 médailles, 6 en or. Et les États-Unis, 6e, 14 médailles, dont 4 en or. Et puis, notons un fait insolite à ces Jeux Olympiques. L'escrimeuse égyptienne Nada Hafez, spécialiste du sabre, a participé au tournoi en étant enceinte de 7 mois.
Merci Didier. Et puis, juste après vous, retrouvons pour un dossier d'actualité. J'en mets Mélène Biti, qui s'est rendue dans la commune d'Adjamé, et ce, une semaine environ après l'opération de déguerpissement menée par le district autonome d'Abidjan. Notre reporter terrain était dans le village d'Abidjan-Adjamé pour faire l'état des lieux et s'enquérir des actions entreprises par la chefferie de ce village pour le relogement et l'indemnisation des populations impactées.
L'atmosphère est encore lourde à Abidjan-Adjamé après l'opération de déguerpissement menée le jeudi dernier, comme en témoigne Jocelyne Abrougoua.
On a tout perdu, les papiers de nos enfants. Nous sommes obligés de dormir chez des gens. C'est ce que nous vivons maintenant. Le matin, ça se lavait la nuit, on veut se coucher. Même 5 francs, ils nous ont pas dit. Prévenez-nous au moins que vous venez au moins pour casser. Nous en dehors comme ça, nous sommes assis dans la rue comme ça. Comme des gens qui n'ont pas de maison. Si vous voyez chez ma maison, moi j'ai un plus de grands étages.
Avec la ruée des populations impactées qui dorment dans la cour de la chefferie d'Amaka, néanmoins Héloïse, responsable de la restauration, craint pour leur santé.
Ça constitue un problème sanitaire. Ici, c'est une chefferie. Il n'y a pas de douche, donc les gens sont obligés de sortir, aller dans les toilettes que les gens construisent dans le quartier pour aller se laver.
Pour Nkoumo Jacques, membre de la chefferie, la charrue a été mise avant les bœufs dans cette opération de déguerpissement.
La loi nous dit que tant que les impactés n'ont pas encore eu leur indemnisation, aucun travail ne se fera. Mais personne n'a encore eu les indemnisations et on veut nous détruire.
L'heure est à l'évaluation des dégâts pour une communauté qui dit avoir tout perdu. Nkoumo Jacques.
Nous sommes un peuple qui est foncièrement ancré dans notre tradition. On a perdu tous ces trucs de tradition là. Nous avions de l'or de nos parents depuis le temps des temps. Chaque fois qu'il y a des manifestants, on les sort. Tout a disparu. Nous allons l'évaluer. Nous sommes en train de recenser. On a fini de recenser. On met ça au grand jour.
Nkoumo Jacques est aussi revenu sur les propositions faites au gouvernement pour leur relogement resté sans suite.
Nous n'avions jamais refusé le développement. Nous sommes d'accord avec un développement. Mais le développement, c'est faire avec des ordres. Nous leur disons où est-ce que vous allez nous reloger. On nous signifie ils n'ont pas de place. On n'a qu'à prendre l'argent, c'est tout. Mais si nous prenons l'argent, demain, l'argent, ça part. Mais il faut que j'aie un village pour me reposer. Dis bon, dans ce cas, nous vous donnons des sites construits pour nous reloger. Ça aussi, c'est impossible.
À Sabo Gilbert, responsable de la cellule de recensement des victimes, nous explique le processus d'enregistrement.
Les Akans, nous prenons les pièces d'identité, nous les enregistrons, nous leur demandons leur numéro de téléphone, ils déclarent les biens perdus. Sur la fiche, on met tout perdu. Au niveau des locataires, puisque les locataires sont dans la maison des Akans, le propriétaire qui est Akan envoie sa pièce d'identité, plus le locataire demandant. Est-ce que c'est commercial? Si c'est commercial, il faut dire qu'ils fournissent les pièces adéquates pour qu'on puisse joindre aux pièces d'identité pour pouvoir suivre les dossiers du locataire.
En attendant de trouver des solutions aux problèmes des populations impactées d'Abidjan-Adjamé, les autorités coutumières sont à la recherche des solutions avec le recensement des populations déguerpies.
C'est la fin de ce bulletin, le rappel des titres. Contrairement à ce qu'avancent certains Ivoiriens, Ibrahim Koulibaly Kuibier trouve suffisant le délai de la révision de la liste électorale. Vous avez entendu sur le sujet en début d'édition le président de la commission électorale indépendante. Et puis hors de nos frontières en Guinée, Moussa Dadis Camara, ce mercredi, a été condamné à 20 ans de prison pour crime contre l'humanité. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Radio de la Paix.
Fraternité, unité, pardon, persévérance, avançons ensemble sur la route de la paix.